VOA Afrique, les infos. À Washington, Idriss Fall.
Dans le sud-ouest du Niger, 13 gendarmes ont été tués hier et 5 autres blessés dans une attaque contre la brigade de gendarmerie d'Ayoru. Cette attaque a été menée par des éléments armés non identifiés à bord de véhicules et de motos, selon le ministre de la Défense. Ayoru est situé près de la frontière avec le Mali, dans la région de Tillabéri, déjà théâtre de nombreuses incursions djihadistes. Le 4 octobre, 4 soldats américains et 4 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade près de Tongo Tongo et ces attaques n'ont pas été revendiquées. Au Mali, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont visité aujourd'hui le poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel à Sévaré, dans le centre du Mali. À Bamako hier, ils ont exprimé leur impatience face au retard dans l'application de l'accord de paix de 2015. Après le Mali et la Mauritanie, ils doivent se rendre au Burkina Faso et seront reçus par le président Roch Marc Christian Kabore. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain en Centrafrique. Le mandat des quelques 10 000 casques bleus de la MINUSCA doit être renouvelé. Monsieur Guterres a déjà demandé l'envoi de 900 soldats supplémentaires. La violence a redoublé ces derniers mois dans les provinces à l'intérieur. 12 casques bleus ont été tués depuis le début de l'année, notamment à Bangassou, où doit se rendre Monsieur Guterres. Cette région est le théâtre d'affrontements à répétition ces dernières semaines qui ont fait des dizaines de morts. Le pape François souhaite un climat de dialogue constructif pour le Kenya en proie à une grave crise politique qu'il dit suivre avec une attention particulière. Le pape s'était rendu au Kenya en 2015 et la Cour suprême kenyane a invalidé la réélection du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août. Un nouveau scrutin est prévu jeudi prochain, mais Raila Odinga a annoncé qu'il ne va pas y participer. Et le directeur général de l'OMS a annulé la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté. Tedros Adhanom Ghebreyesus dit que c'est dans l'intérêt de l'agence de l'ONU après la controverse provoquée par sa décision la semaine dernière. Et l'envoyé, le nouvel émissaire spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Hurst Kohler, qui effectue sa première tournée dans la région, s'est entretenu à Alger avec le premier ministre Ahmed Yahya. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, mais aucun détail n'a filtré de leur entretien. Toujours en Algérie, plusieurs partis d'opposition ont dénoncé le rejet arbitraire de nombre de leurs listes électorales pour les élections municipales et départementales du 23 novembre. Ils accusent le pouvoir de vouloir faire main basse sur les assemblées locales. Une soixantaine de candidats de l'alliance islamiste El Binna en Nahda FJD ont été recalés alors que d'après cette coalition, ils ont pu se présenter aux législatives en mai dernier. En Égypte, un tribunal du Caire a condamné à la mort par pendaison 11 personnes et 14 autres à la prison à perpétuité. Elles ont toutes été reconnues coupables d'appartenance à une organisation terroriste et de tentative d'assassinat de deux officiers. L'affaire est connue dans la presse égyptienne sous le nom de cellule terroriste de Giza. Il s'agit de l'une des cellules ayant participé aux violences suite à la destitution en 2013 du président Mohamed Morsi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les dirigeants indépendantistes de Catalogne se sont fait discrets aujourd'hui sur leurs intentions. Hier, le gouvernement conservateur de Mario Rajoy a annoncé des mesures drastiques et le Sénat espagnol devrait en principe voter ces mesures en séance plénière vendredi prochain. La Lombardie et la Vénétie, deux régions des plus riches de l'Italie, ont voté aussi dans un référendum visant à réclamer davantage d'autonomie à Khartoum. Les sondages donnent une nette avance au oui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous, ravie de vous retrouver pour 30 minutes de ce rendez-vous interactif. Alors, quelle est l'histoire ? L'histoire, c'est que le gouvernement éthiopien a annoncé le 28 juillet qu'il allait remettre des cartes d'identité à 1000 résidents Rasta. Ce papier leur permettra de résider en toute sérénité sur le territoire éthiopien et de bénéficier de la plupart des droits dans ce pays sans toutefois en avoir la nationalité. Vous le savez peut-être, vous qui nous écoutez, l'Éthiopie est considérée par les Rastafari comme leur terre promise, leur Jérusalem, leur Mecque si vous préférez. Ce soir, profitons de cet événement pour mieux comprendre le rastafarisme. Alors, s'agit-il d'une secte, d'une religion, d'une philosophie de vie? Qui en sont les adeptes? Quels en sont les préceptes? Quels en sont les héros et les héros? Nous avons près de 25 minutes pour appréhender le rastafarisme et deux intervenants vont nous y aider grandement. Depuis Paris, Maboula Soumaoro, docteur en civilisation du monde anglophone, une matière qu'elle enseigne en France à l'université de Tours. Bonsoir Maboula Soumaoro.
Bonsoir Anastasie Tudiech.
Maboula Soumaoro est donc à Paris et puis avec nous depuis Dakar, Samba Mboup. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je m'appelle Samba Mboup.
Samba Mboup. Et vous êtes chercheur enseignant en anthropologie.
En anthropologie linguistique et culturelle. Je suis membre fondateur de l'Institut Thabo Mbeki pour le leadership africain. Je suis ancien ambassadeur du Sénégal.
Merci à vous deux d'être avec nous. Et puis, pour vous qui nous écoutez, cette émission est la vôtre. Votre voix est nécessaire. Avez-vous des Rasta autour de vous? Quelle est votre expérience avec eux? Peut-être êtes-vous Rasta vous-même? Appelez, témoignez. Le standard de VOA Afrique est là pour vous, ainsi que notre page Facebook. Le téléphone, c'est 202 205 26 33. Et si vous souhaitez poser une question à l'un de nos invités, n'hésitez pas. Alors, vous avez déjà commencé à vous exprimer sur Facebook et vos avis, le moins que l'on puisse dire, sont divers et variés. Pour Yao Marcelin Kofi, par exemple, le rastafarisme n'est ni une secte, ni une religion, mais plutôt une philosophie de vie. Les rastas s'identifient le plus souvent à un genre musical, le reggae, avec une coupe de cheveux hors du commun. Mais au regard de leur pratique, à savoir manger végétarien, hostile à l'alcool, et le langage utilisé qui est propre à leur style de vie, l'on pourrait penser que le rastafarisme est une secte ou une religion. Alors voilà, merci Marcelin pour ce commentaire qui fait un peu le plan de l'émission. Commençons tout de suite avec une question laissée par un auditeur de VOA Afrique qui s'appelle Théadoum Osana Killer, il est tchadien, et il nous dit « Bonjour VOA ». Ici, dans cette vie, tout être humain doté d'une moralité est libre de choisir sa voie de croyance. Et donc, pour lui, pour Théadoum Osana Killer, à ma connaissance, le rastafarisme n'est pas une secte, mais une religion. C'est leur façon de vivre et de croire. Merci Théadoum. Alors, Maboula Soumaoro, secte ou religion, le rastafarisme d'abord ?
Excusez-moi, je vous ai mal entendu, Anastasie Tudiech.
Oui, je vous posais la question de Théadoum Osana Killer. Secte ou religion, le rastafarisme?
Secte ou religion, oui. Non, je dirais soit philosophie ou mouvement spirituel, mais ni secte ni religion. Bon. Ce n'est pas une religion parce qu'il n'y a pas de dogme précis qui ressemblerait à des choses très centrales qu'on retrouve, par exemple, dans les religions monothéistes, desquelles, en tout cas pour le christianisme et le judaïsme, desquelles le rastafari s'inspire. Et c'est vraiment depuis la naissance du mouvement, il y a eu un éclatement de plusieurs, ce qu'on appelle les maisons, houses en anglais, les maisons, avec plusieurs leaders, plusieurs orientations différentes. Donc généralement, quand vous parlez aux Rasta eux-mêmes, en tout cas à la Jamaïque, ils parlent de mouvements spirituels, de liberty, c'est-à-dire un mode de vie.
Un mode de vie. Donc Théadoum n'était pas loin en tout cas. Alors, quelle est l'origine, Maboula, du rastafarisme ?
Alors, l'origine du rastafarisme remonte aux années 30, en 1930, à la Jamaïque, dans la Caraïbe anglophone. On a à ce moment-là, au mois de novembre 1930, le couronnement de l'empereur éthiopien qui s'est nommé, qui a pris comme nom de couronnement Haïlé Sélassié, et avec toute une série d'épithètes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on entend souvent dans la musique reggae, c'est le roi des rois, donc King of Kings, Lord of Lords, Conquering Lion of the Tribe of Judah, Light of the World, The Elect of God, enfin voilà, tous des épithètes que Haïlé Sélassié, qui jusque-là s'appelait Ras Makonnen, donc c'est une sorte de race, ça veut dire, c'est un titre honorifique,
c'est chef,
en fait,
c'était... Hein.
Voilà, c'est chef, mais c'est un titre pour marquer la noblesse en Éthiopie. Donc c'était un ras, donc du nom de Makonnen, et il a adopté Haïlé Sélassié comme nom d'empereur. Et donc tous les épithètes qu'il a souhaité associer à son nom d'empereur sont des références directes à des passages précis de la Bible. Et donc on va dire, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais de manière peut-être inattendue, ces épithètes bibliques ont trouvé un écho tout particulier dans la Jamaïque du début du XXe siècle. Voilà. Et donc, à Kingston et dans les environs de Kingston à la Jamaïque, plusieurs personnes, de manière indépendante, c'est pas un mouvement qui est né de manière unique et unilatérale, plusieurs personnes ont commencé à prêcher la divinité de cet empereur qui venait d'accéder au trône de l'Éthiopie, donc l'Éthiopie qui est un pays spécial, puisque l'Éthiopie en 1930 fait partie des quelques pays qui ne sont pas sous le joug colonial européen, d'accord. Au-delà de, je ne sais pas, vous avez le Libéria, vous avez l'Afrique du Sud et son histoire particulière, mais l'Éthiopie est une nation qui a su résister au colonialisme européen.
Et c'est ce qui explique le choix de l'Éthiopie comme terre d'élection pour les Rastas.
Ah, oui, parce que à cette époque, l'Éthiopie, ou ce qu'on appelait l'Abyssinie à l'époque, représentait une nation africaine puissante et libre. Et l'Éthiopie est aussi un des seuls pays africains avec l'Égypte qui est mentionné dans la Bible. Donc dans les Amériques, dans le cadre de la traite négrière et d'esclavage, il y a une longue tradition d'interprétation de la Bible qui a donné un lien particulier, une signification particulière à l'Éthiopie, puisque vous avez dans les psaumes, par exemple, le psaume 68-31, des princes viendront d'Égypte et l'Éthiopie, je ne sais pas, excusez-moi, je n'ai pas la traduction en français, mais l'Éthiopie ouvrira ses mains vers Dieu ou quelque chose comme ça. Donc ça, depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, il y avait quand même un statut spécial avec l'Éthiopie. Et au XXe siècle, en fait, c'est comme s'il y avait une confluence de toute cette longue tradition d'interprétation qui datait des Amériques, qui conflue avec l'émergence de Haïlé Sélassié sur la scène internationale publique, un couronnement fastueux auquel sont invités les dignitaires du monde entier. Enfin voilà, c'est l'Afrique dans toute sa grandeur
dans toute
et
sa
dans
splendeur.
Toute sa splendeur a illuminé certaines populations noires
par ce couronnement
déplacées dans les Amériques. Donc en fait, la naissance du mouvement Rastafari pour moi est comme une sorte de panafricanisme religieux, en fait. C'est vraiment l'idéologie panafricaine et qui penche dans ce cas-là vers la spiritualité.
Vers une spiritualité. Sambamboup.
Oui.
M'entendez-vous?
Bonjour.
Oui. Alors, quels sont les principes, les préceptes du rastafarisme? Vous pouvez nous les expliquer?
Bon, les préceptes de rastafari, ils disent pas rastafarisme, ils disent rastafari. C'est un concept, on ne peut pas le traduire par rastafarisme ou rastafarianisme en anglais. C'est un concept africain qui a été forgé selon une démarche africaine.
C'est noté, merci. Alors, quels sont les préceptes du rastafari?
Bon, on peut en citer quelques-uns. Hein. Il y a la prière, donc la méditation. Il y a l'étude, il y a le travail. Mais ces principes sont également des principes d'éthique sociale et de comportement qui mettent l'accent sur l'autonomie, la production de ce qu'on mange, de ce qu'on porte, mais également les institutions comme les écoles. Où l'on éduque nos enfants. Et quand vous allez par exemple en Jamaïque, parmi les meilleures écoles, les écoles les plus performantes, Romane. Donc, ce sont ces écoles-là qui sont installées à flanc de collines dans les montagnes et qui sont gérées par, de façon indépendante par les Rasta. Bon, donc, l'autonomie de pensée et d'action, mais également les valeurs de respect, de tolérance dont on a grandement besoin dans le monde agité d'aujourd'hui, ajoutées à la créativité, à des qualités d'endurance, de résilience qui distinguent les Rasta et qui sont une perpétuation en fait de l'héritage des Fighting Maroons of Jamaica, hein, les nègres marrons, donc les Africains qui se sont échappés des plantations esclavagistes pour aller s'installer, créer des communautés indépendantes, bon, pas seulement en Jamaïque, mais
partout où l'esclavage était pratiqué.
Partout quoi, où il y a eu l'esclavage, aux États-Unis, à Suriname, etc., en Guyane, etc. Quoi. Donc, cette tradition de résilience, de résistance, d'endurance, mais également cette fierté, cette recherche, cette quête de l'indépendance, de l'autonomie et de l'affirmation de soi à tout prix. Quoi. Et c'est cela qui constitue donc des principes. Et en cela, le mouvement Rasta ou Rastafari rejoint en fait les principes, les objectifs, les principes du panafricanisme.
Est-ce que vous pouvez nous parler également, M. Mboup, du régime alimentaire qui est particulier, je crois?
Oui, en fait, il est particulier que cela. Bon, généralement, les Rastas sont des végétariens ou des végétaliens. Ils proscrivent la consommation de porc, d'alcool, etc. Enfin, en fait, ils ont un régime alimentaire très, très sain. Et d'autant plus se s'astreindre à ce régime alimentaire qu'eux-mêmes produisent ce qu'ils consomment. Le régime alimentaire, mais c'est aussi un mode de vie, la pratique du sport. Les Rasta, les véritables Rasta, sont des gens qui sont fit, comme on dit, ils sont en bonne forme, quoi, physique, mentale, spirituelle, qui rayonnent, en fait, qui irradient vraiment une aura de paix, de sérénité intérieure, et de tolérance, de respect des autres dont on a encore une fois grandement besoin dans le monde tourmenté d'aujourd'hui.
Est-ce que vous faites un lien, M. Mboup, entre le reggae et le Rastafari? Et les Rastafari?
Bien entendu, bon, le reggae, en fait, le reggae, c'est la musique de Rastafari, hein, c'est la femme, ils appellent ça Jah music, donc la musique divine, la musique de Jah. Hein, c'est la musique de Rastafari, c'est l'expression de Rastafari, d'où donc l'expression Jah music. Mais sur un plan plus prosaïque et au plan social et esthétique, la fixation du reggae et son contenu sont porteurs de la protestation sociale et politique, de la revendication identitaire, du sentiment de fierté et de dignité retrouvée, mais également du message d'espoir de la jeunesse africaine partout dans le monde.
C'est entendu. Maboula Soumaoro, je reviens à vous qui êtes à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler du signe extérieur le plus évident d'appartenance au Rastafari, les fameuses locks? Pourquoi cette coiffure? Qu'est-ce qu'elle veut dire?
Alors, les locks aujourd'hui sont grandement associés au mouvement Rastafari, mais dans les années 30 jusqu'à la fin des années 40, les locks n'étaient pas le symbole le plus représentatif en fait des Rastafari. Les premiers Rastas ne portaient pas de locks.
Ah.
Au-delà des locks, oui, c'est la deuxième génération de Rastas et des jeunes plus radicaux qui ont popularisé cette coiffure et qui ont d'ailleurs pour se faire vraiment au début des années 50, ont regardé les mouvements de libération, notamment au Kenya, et ils ont regardé la révolte paysanne des Mao-Mao, et les Mao-Mao, quand on les voyait dans la presse, avaient des locks. Et ces images-là qui ont pénétré l'imaginaire des Rastafari de la Jamaïque. Mais les premiers Rastas dans les années 30 et 40 ne portaient pas de locks. D'autres symboles peuvent inclure, par exemple, les couleurs, le vert jaune-rouge.
Oui.
On pourrait aussi mentionner le drapeau panafricain de Marcus Garvey, donc le rouge, noir et le vert, ça fait partie de la symbolique Rasta, tout comme le lion, donc
le lion de Judas,
qui est donc Haïlé Sélassié, la symbolique qu'il a adoptée lors de son couronnement que j'ai mentionné auparavant.
Alors,
c'est vrai que les locks, sont aujourd'hui donc sont très, très grandement associés au mouvement Rastafari et expriment l'implication. La matérialisation dans le corps de la philosophie spirituelle Rasta. C'est-à-dire que si on est Rasta, comme on vient de le mentionner, il va avoir des préceptes alimentaires, un régime alimentaire qu'on va suivre. Mais le corps et le corps noir doit aussi refléter son adhésion à cette spiritualité, à cette philosophie. Donc on va essayer de garder les choses le plus naturellement possible. On va adopter un style de vie qu'on appelle Aital, qui veut dire vital, voilà. Et donc ne pas se coiffer, refuser de se peigner les cheveux, et aussi fait partie de l'engagement total que les Rastas essayent de prôner et surtout essayent de démontrer par leur pratique même.
Et puis donc, question,
il y a aussi un point que j'ai oublié, il y a aussi le vœu nazaréen de la Bible, si on pense à Samson par exemple. Voilà, les Nazaréens étaient les personnes qui étaient complètement dédiées à Dieu et qui elles aussi ne peignaient pas leurs cheveux, et ne les coupaient pas, ni les cheveux ni la barbe.
Et c'est poursuivre ce principe-là également. Alors, autre question un peu provocatrice, laissée sur la page Facebook de VO Afrique par notre auditeur Castro Miguel Sincero Francisco. Il nous dit comme ceci, la carte de résident que le gouvernement éthiopien va remettre au Rastafari, c'est pour fumer du chanvre en public? Alors, la question est provoque, mais le fond est intéressant. Quelle est la place du cannabis dans ce mouvement-là et au-delà du cliché Rasta égale fumeur de joint qui a cours depuis un moment?
Alors oui, c'est vrai que je pense que c'est un cliché un peu facile, puisque tout le monde sait qu'il n'y a pas que les Rastas à travers le monde qui fument du cannabis. Donc c'est un peu facile d'associer le cannabis au Rasta, alors que plein d'autres personnes qui ne sont pas Rastas dans le monde entier, de toutes les couleurs, fument du cannabis. Mais en tout cas, dans la philosophie Rasta, oui, le cannabis, depuis les premières années, depuis les premières communautés Rasta qui se sont érigées dans les alentours de Kingston, la culture du cannabis a été encouragé, et le cannabis fait partie des cérémonies, vraiment ça fait partie d'un rituel qui permet aux personnes qui le fument ou qui le boivent ou qui le mangent, en tout cas d'accéder à une conscience spirituelle plus élevée.
Un peu comme l'iboga au Gabon, le rituel du bouiti, ou bien le peyote chez les Amérindiens.
Exactement, et on le fume en communauté, on le fume à des moments précis. Après, bien sûr que des gens fument du cannabis, pas seulement lors des rites, mais en tout cas chez les Rastas, il y a eu une ritualisation de cette consommation de cannabis.
Et cette consommation est codée.
Oui, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle les premières communautés de Rastas ont été très persécutées par les autorités jamaïcaines, et c'était l'excuse trouvée par les autorités pour détruire ces communautés, en fait, la consommation de cette drogue.
Vous êtes à l'écoute du Dialogue des religions, tous les mercredis à partir de 19h TU. Pour intervenir en direct, vos numéros de téléphone, questions et remarques sont les bienvenus sur notre page Facebook ou à l'adresse suivante fr@voanews.com.
Merci d'écouter VOA Afrique, c'est le dialogue des religions, presque un peu moins de 7 minutes encore à passer avec vous, chers auditeurs, et avec nos deux intervenants qui, progressivement, si vous suivez cette émission depuis le début, nous éclairent sur le mouvement Rastafari, sur ses fondements, ses préceptes, et les gens et ceux qui les pratiquent. Je me tourne vers vous, Samba Mboup, vous êtes à Dakar avec nous, avec la question d'un auditeur, ou plutôt son intervention, celle de Hamza Gaylo. C'est plus qu'une question, c'est un shout-out, comme on dit ici, un hommage. Il nous dit « Je suis Rastafari au Sénégal, Haïlé Sélassié est très reconnu. Les Rastafari, je suis fier de cette nouvelle, en parlant évidemment de ce papier accordé par le gouvernement éthiopien au Rastafari, au Rasta. » Alors, ma question, c'est un bon bout. Au Sénégal, les Tchédos ont repoussé les dominations musulmanes comme chrétiennes dans l'Afrique de l'Ouest, pas seulement au Sénégal. Et aujourd'hui, leurs descendants portent aussi des locks. Est-ce que vous faites un lien entre les Tchédos et les Rastas?
Oui, je pense qu'il y a un lien, d'abord apparent. Il faut dire d'abord que les dreadlocks correspondent au mouvement de à la pousse naturelle des cheveux des Africains, donc selon qui ont une texture très particulière. C'est-à-dire que n'importe quel Africain qui laisse ses cheveux sans les peigner devient finalement...
Ses cheveux se transforment en lox.
Ses cheveux vont se transformer en lox. Alors, il faut dire aussi que c'est une habitude très, très ancienne. Par exemple, dans l'Égypte pharaonique, il y a un certain nombre de... Quand on consulte l'iconographie, on voit des images de pharaons, etc., et d'autres des personnages qui portent les dreadlocks. Bon, Soumaoro, Mater, a parlé tout à l'heure de l'identification à ce qu'on appelle les Maumau au Kenya, hein, en 1954, en particulier avec le leader Didan Kimathi. Les dreadlocks constituent un symbole de continuité et d'identité historique et culturelle. Alors ici au Sénégal, les Kédo, comme on les appelle, oui. Les Baïfal aujourd'hui, parce qu'il y a plus de Baïfal aujourd'hui que des Kédo, il faut savoir que historiquement, les Baïfal, donc qui représentent un courant du mouridisme, sont en fait d'anciens Kédo, on devrait dire Sédé, si on respectait, disons, les règles morphologiques du poulard. Donc sont d'anciens guerriers, donc des membres de l'aristocratie traditionnelle qui ont rejoint donc l'espace mouride, qui ont répondu au message de Cheikh Ahmadou Bamba, donc à la fin du 19e siècle. Et quand ils sont arrivés, Cheikh Ahmadou Bamba a passé avec eux un message qui leur permet de continuer à pratiquement perpétuer leur type de vie, au moins la consommation de l'alcool, etc. Mais en tout cas par le travail, mais sans forcément, par exemple, prier ou déjeuner, etc. Donc, dans cet espace-là, le mouridisme a constitué un espace d'expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Baïfal, comme on les appelle, donc, dont le fondateur est Cheikh Ibra Fall, lui-même portait des dreadlocks. Donc, les Baïfal aussi continuent également à s'inspirer de ce modèle-là et donc à porter les dreadlocks.
Maboula, merci beaucoup pour ce point, pour ce lien entre un pays d'Afrique et l'évolution du Rasta Farai. Très précise, monsieur Mbouk. Maboula Soumaoro, l'émission touche à sa fin. Est-ce que, pour continuer la découverte, l'exploration de ce mouvement que vous nous avez présenté comme mouvement religieux, ou mouvement philosophico-religieux plutôt, est-ce que vous auriez un ouvrage, un film, un site à nous recommander sur le sujet?
Alors, en français, on a le premier Rasta d'Hélène Lee qui se consacre à Leonard Howell, qui est l'une des premières personnes à avoir prêché la divinité d'Haïdé Sélassié en la Jamaïque. Donc, il y a un documentaire toujours d'Hélène Lee et il y a un livre qui s'appelle Le premier Rasta. Mais surtout, on a la chance d'avoir une historienne française du nom de Julia Bonacci, oui, qui a publié un livre massif tiré de sa thèse de doctorat sur le retour de ces Rasta dont on vient de parler, ceux à qui on va donner enfin une identité en Éthiopie. Donc le retour de Rasta, de la diaspora en Éthiopie. Ce livre s'appelle Exodus et il est en français.
Recommandé par le docteur Soumaoro. Merci beaucoup, Maboula. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation du monde anglophone à l'université de Tours. Merci également à vous, Souleymane Boup. Je vous dis au revoir avec une petite question. Vous avez 30 secondes pour y répondre. Comment Souleymane Boup pourrait évoluer le rastafarisme aujourd'hui? Le Rastafari aujourd'hui.
Souleymane Boup, c'est moi?
Oui. Oh, pardonnez-moi. Samba Boup.
Oui, je m'appelle Samba. Le Rasta, il faut se reporter à ce que disait Walter René dans son livre The Grounding with My Brother, que Rastafari est l'une des expressions les plus avancées, les plus fortes du panafricanisme. Et on peut dire que c'était vrai au XXe siècle, c'est encore plus vrai au XXIe siècle. Il y a aujourd'hui des Rastas qui sont professeurs, musiciens, banquiers, en fait, qui évoluent dans tous les rouages de la société et qui s'affirment, mais avec leur identité Rasta, qui, encore une fois, est l'une des expressions les plus fortes du panafricanisme.
Mais on retiendra cette phrase-là. Le Rasta est l'expression la plus forte du panafricanisme. Merci beaucoup à vous, Monsieur Boup. Vous étiez avec nous depuis Dakar. Merci également à vous, chers auditeurs, qui avaient été nombreux à participer via Facebook, notamment. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. We'll be right back.